Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je sais que vous en avez plein la bouche de Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain.
Beaucoup de frustration. Dans sa première mi-temps, voilà, on s'est fait cueillir à chaud.
C'est pas passé, mais il va falloir faire la même chose dimanche prochain.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue en direct sur RMC jusqu'à minuit, bien sûr, en direct également sur After Foot TV. Nous sommes à la télé, nous sommes à la radio, nous sommes sur les réseaux sociaux, l'after est partout, première radio de France, le soir avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là, salut Florent. Et Jean-Louis Tour, salut Jean-Louis.
Salut tout le monde.
L'événement ce soir dans l'after, les gars, c'est notre nouveau rendez-vous interactif du mardi soir. Eh oui, c'est l'année des 20 ans, on innove. Et on vous attend, vous les auditeurs de l'after, 30 minutes tout à l'heure pour répondre à vos questions, à vos avis, à vos coups de gueule, à la fois sur le chat YouTube de la chaîne de l'after, sur Direct Studio que vous connaissez déjà, que vous pouvez trouver sur les applis RMC et RMC Sport, et désormais sur notre nouveau numéro WhatsApp. Eh oui, l'after a un numéro WhatsApp.
Je l'ai même pas moi.
Normal, toi tu vas pas t'envoyer à toi-même un message.
Qui est derrière le WhatsApp? Bah Gilbert.
Là, je suis là, j'ai une tablette, regarde. Hop.
Non, non, tu peux enregistrer le numéro si tu veux.
Il y a un numéro WhatsApp.
Ouais. Ouais.
Donc moi je peux envoyer.
Ouais, tu peux t'envoyer un message à toi-même.
Un vocal.
D'accord, très bien.
Alors le numéro il est simple, c'est 0612 424 424.
0612 424 424.
Voilà. Donc envoyez-nous les messages, là j'ai la tablette devant les yeux.
Voilà. Je vais le faire tout de suite pour tester.
N'hésitez pas. Par exemple David qui nous dit pensez-vous que Zegrova va aller à la Juve? Par exemple, c'est le dernier qui vient.
Ouais, non, on va pas répondre à ce genre de questions.
Non, non, mais bon, envoyez quoi. Ah. WhatsApp, c'est gratuit évidemment, donc c'est pratique. N'hésitez pas. Et puis tout à l'heure, Jimmy sera là pour relayer les meilleurs messages après 23h. Avant cela, nous débattrons du renouvellement de l'effectif du PSG après sa saison triomphale. On fera le point sur le mercato lyonnais. Florent veut donner son avis sur la saison de Brest. Et puis Julien Laurent sera avec nous tout à l'heure pour nous raconter comment des gamins de 15-16 ans peuvent se retrouver à jouer en Première Ligue. Julien nous expliquera aussi comment Sunderland est devenu un bastion français.
Ah oui, qui va expliquer ça?
Julien Lance.
Ouais, je vais être très attentif alors. Comment c'est devenu un bastion français?
Ouais.
Ouais, d'accord, ok. Je vais être très attentif alors.
Par l'intermédiaire de Régis Lebris et de son agent.
Surtout de son agent.
Bah ouais, bah s'il est bon.
Ah bah, il contrôle le club quoi. Bah, un agent qui contrôle un club, oui, ok. Enfin, on a connu ça, Mendes a fait ça.
Ah, qui contrôle un club, qui a la confiance d'un club.
Ouais, bah, ouais,
ça dépend des mots qu'on emploie.
Ouais.
On verra ça tout à l'heure.
Et on doit trouver que c'est quelque chose de bien qu'un agent place tous ses joueurs dans un club et qu'il soit également l'agent de l'entraîneur et tout. Je me souviens qu'à une époque, c'est typiquement le genre de choses qui te faisait bondir au plafond.
Non, mais, le problème, c'est le club. Dans
je dis pas que c'est génial.
On c'est le président qui laisse trop de liberté à ces gens-là.
Le club a été mis dans les mains de ceux qui le contrôlent aujourd'hui.
Oui, mais en soi, on ne peut pas reprocher à l'agent ou à Régis Lebris de.
Bon, on fera le débat tout à l'heure.
Mais c'est plus à la direction qui est peut-être trop faible.
Je répète, on fera le débat tout à l'heure.
Il y a quelque chose qui est complètement anormal. Dans
et puis, alors ce soir, on a des matchs importants. Importants pour l'année à venir de Jean-Louis Tour, notamment. Bah oui, ouais. Parce que c'est les barrages retour de Ligue des Champions. Donc là, on a des adversaires potentiels des clubs français. Et le premier, figurez-vous que c'est un club kazakh, le Kayrat Almaty, qui a éliminé à la surprise générale le Celtic Glasgow au tir au but tout à l'heure.
Donc Almaty sera en Ligue des Champions.
Exactement. Ouais. Vous pouvez voir un PSG Almaty ou Almaty PSG.
Donc Almaty s'est sorti du parcours périlleux du mois d'août pour
tout à fait.
Le truc que Nice a même pas envisagé une seconde.
Ah non, mais exactement. Nice, ils ont fait plus que Nice. Ils ont fait trois tours préliminaires et le barrage.
Limite, ils ont démarré quand t'étais en vacances.
Non, attention, sauf que eux, ils sont dans la voie des champions. Donc ils jouent contre des champions d'autres pays qui sont moins bien classés. Donc ils n'étaient pas susceptibles de jouer contre Benfica et des gros clubs comme
ça. C'est ça. Mais ils ont fait plus de matchs en volume en tout cas.
Après Celtic Glasgow, reste quand même une équipe historique évidemment.
Celtic, je suis pas sûr que Nice, je suis pas sûr que ça passait. Hein.
Bah bien sûr non. Pas sûr
je pense que Nice ils perdent l'année dernière en Europa League contre le Celtic d'ailleurs. Avec un doublé de Higa.
Donc moi je veux un match du.
Ah c'était les Rangers pardon. Oui.
Je veux un match du Kayrat Almaty contre un club français.
Je voulais pas jouer.
Je veux que Jean-Louis aille à Almaty pour un match d'un club français. Voilà.
D'accord.
Et bah si ça tombe.
Histoire extraordinaire Almaty.
D'accord.
Le président du club qui a le même nom que le club il s'appelle Kayrat.
Ah bon c'est pas Mimi Mati.
Non. Il est patron des McDo aussi là-bas. Il était en prison à un moment parce qu'il était dans le camp du président qui s'est fait lourder.
Bref. C'est le genre de pays que Gilbert maîtrise parfois.
Ouais.
Kazakhstan, c'est on a l'impression qu'il parle. C'est toi qui parles de l'Espagne, Jean-Louis. Tu vois.
Ah, sauf qu'Almaty, c'est à la frontière, quasi à la frontière de la Chine.
Très bien.
Voilà. Donc Jean-Louis,
fais-nous une demi-heure dessus, hein, qu'est-ce que je te dis.
Après, c'est Brøndby.
On voit. Hein.
Ah, il y a un jeune joueur de 16 ans, déjà acheté par Chelsea.
Il va faire la demi-heure.
Ah, ah, ah je bon. Peux t'en raconter.
On peut se barrer, il va faire le Almaty, Kazakhstan, machin.
Bon, sinon, il y a l'étoile rouge là,
non,
qui Brøndby, joue.
Tu vas pas en parler, Brøndby. Contre, tu vas nous passer ça sous silence jusqu'à jeudi.
Non, non, on peut en parler. Si
l'inquiétude,
le coup franc de Daniel Vaz,
la tribune qui est en train d'être refaite pour accueillir la Conférence League, qui peut ne pas accueillir rien, enfin qui peut ne rien accueillir du tout.
Les gars, Panicelli,
c'est pas l'avant-match. Demain.
Tous les bretzels qui sont prêts et tout, qui risquent de rester à la cave.
Il n'y a jamais de bretzels qui restent à la cave. Ça part tout seul.
Parce que là, ils ont prévu double dose pour le jeudi et le dimanche.
Évidemment.
Est-ce que les frères Laudrup seront sur place ? En légende de Brøndby ?
Bon, j'en sais rien.
Pour mettre la pression.
Gilbert n'y est pas, légende du Racing.
Bon, sinon, il n'y a pas faux, c'est étoile rouge Belgrade. Autre adversaire potentiel avec le français, Sturmgrass, Bodø/Glimt. Bodø/Glimt va se qualifier. Ils ont gagné 6-1 à l'aller.
Oui.
Donc, voilà. L'étoile rouge, autre club historique de la Ligue des Champions, allez savoir, face à un club français, face à Marseille, pourquoi pas, si jamais ils se qualifient. Ce serait un retour de l'histoire. Et puis, on a également, sachez que Daniel est très intéressé par le CHAD, la CAN des équipes, des joueurs locaux. Oui. Demi-finale ce soir entre le Maroc et le Sénégal, prolongation un partout entre le Maroc et le Sénégal.
Il n'y a aucun problème, Daniel. Il n'y a vraiment que Gilbert qui s'intéresse.
Et dans l'autre, grosse surprise dans la demi-finale, Madagascar s'est qualifié pour la finale. Alors, grosse surprise.
Je vais t'apprendre. 1-0
face au Soudan.
Je pense que tu es bien assis parce que tu risques de tomber de ta chaise, Jean-Louis, puisque tu te moques. Et une année, il y a très longtemps, ça devait être 2007 ou 2008, j'ai commenté la CHAN en basket.
Le CHAN.
Basket.
De basket.
Oh.
De basket.
T'as commenté le basket déjà ?
Je suis en train de te le dire. Et le CHAN.
Avec un consultant quand même. Qui te permet de faire le factuel parce que tu lui laisses un peu la technique, non ? Il est dans la peinture.
Je me demande si je te vois tout seul.
Ah ouais ? Ah ça c'est dur. Ah ouais. Ça c'est très très dur.
J'ai bossé.
Ma chaîne sport ?
Ah non, c'était pas ma chaîne sport, c'était CFI. T'as connu, j'imagine.
CFI, c'était une chaîne, oui, chaîne internationale, quoi. C'était un peu le RFI version télé.
Oui. T'as compris, quoi.
C'était très, très,
t'as compris
très
où elle était. T'as compris où elle était. T'as compris où allaient nos impôts.
C'est un ancêtre de TV5.
Jean-Louis, t'as compris où allaient nos impôts. CFI.
Bah, dans le salaire de Florent Gautreau à l'époque aussi.
Non, on peut dire.
L'autre, il est vraiment
de
lui,
il s'est gavé pendant 20 ans au service public et il vient nous donner un son d'effort. Bravo.
Je suis parti justement parce que je trouvais que c'était pas juste.
Ça
me dérangeait.
Ça me dérangeait d'être gavé par ça.
J'ai décidé d'arrêter de subventionner. Alors, des fois, quand je payais mes impôts, j'ai l'impression de me donner du salaire à moi-même. Donc, ça, c'était plutôt sympa. Mais bon, maintenant, je me suis dit, allez, on arrête.
Tout à l'heure, j'ai entendu le débat entre Walid et Kevin. Ce sera intéressant à refaire parce que.
Bah, c'est prévu avec Julien Laurence.
Non, celui sur les jeunes joueurs, machin.
Oui, c'est prévu avec Julien Laurence tout à l'heure, si tu avais écouté mon sommaire. Et si tu avais.
Avec Julien Laurence, on parlait de.
Et si tu avais lu les 1000 messages WhatsApp qu'on a échangés aujourd'hui dans notre groupe de préparation de l'émission.
Non, mais il n'y a jamais eu ça. Alors.
Non, mais vrai, moi je suis pris à témoin là.
Il n'y a pas eu ça.
Non, dans la conf de rédac, on a fait notre conf de rédac ce midi. On en a parlé.
Dans la conf de rédac de midi, on en a parlé.
Les mythos que vous êtes, mais c'est incroyable.
Il fallait que tu viennes à midi.
Oh, allez, les menteurs. Ouais. Allez, continuez les gars.
Non, mais c'est vrai qu'on a peut-être oublié de le mettre dans la boucle.
Ouais, c'est ça.
Vous dire qu'il ne fait pas souvent l'émission aussi, c'est pour ça.
En tout cas, il y avait des avis divergents entre Kevin et Walid. Et Flo et moi étions justement également en désaccord sur ce point.
Eh bien, on fait le débat tout à l'heure avec Julien Laurence, justement. Premier débat avant cela, les gars, le PSG prend-il un risque en ne renouvelant pas son effectif ? Alors ça, c'est... On a cherché, là, Jimmy Brown, notre producteur, qui désormais prend de l'ampleur, vous le savez, à chercher. On a tous regardé. En fait, il y a différentes écoles. T'as l'école « On change rien ». Et ça continue de gagner. Et l'école, il faut changer pour continuer de gagner. Là, le PSG, bon, pour l'instant, on change pas grand-chose.
J'ai regardé un peu dans l'histoire, effectivement. La dernière équipe qui gagne plusieurs Ligue des Champions, c'est la Real. Et sur les trois victoires en Ligue des Champions, il n'y a presque pas de changement sur le 11.
Il y a quand même un ou deux joueurs qui sont... Il y a des petites différences. Là,
non, le Real, non.
Ah.
Non, t'as que Isco, Bale, c'est le seul truc.
Ok, d'accord. Okay.
Mais sinon, Isco commence les finales à chaque fois. Enfin, tu vois,
donc il y a des petits.
Ouais, mais c'est
là, non, mais là, on part sur un 11 titulaire totalement identique.
Oui. Et attends, juste pour finir,
non, gardien, gardien de but.
En revanche, sur les autres exemples,
non,
là, ça bouge. Mais surtout en attaque. Tu gardes la colonne vertébrale, que ce soit le Barça quand ils en gagnent deux, 2009-2011, que ce soit Milan début 90.
Pour le coup.
Non, non, c'est vrai, non. Mais bon, ils sont quand
là,
même.
Si tu vises un back-to-back, mais Milan, deux années juste l'une derrière l'autre.
89-90, t'as regardé.
Voilà, Milan début 90, t'as la colonne vertébrale et ça change à la marge.
Bah oui.
Et la Juve change et surtout offensivement. Donc, là où on note les changements, c'est surtout sur la.
En fait, surtout, il n'y a jamais eu de chamboulement énorme. Ce qui est logique. Par contre,
Le dernier truc, quand même, c'est que tous les exemples n'ont pas le même âge, n'ont pas la même moyenne d'âge que le PSG. C'est quand même une importante.
Juste en préambule, il y a deux choses. On a déjà fait ces débats et c'est intéressant. De prendre ça comme point d'appui aussi sur les équipes nationales qui gagnaient et qu'il était difficile de.
Est-ce que c'est
de...
comparable ?
Non, mais je dis ça juste sur un point, c'est que quand c'est sur deux ans, hein, genre championnat d'Europe, Coupe du Monde, bah pas oui, sur quatre ans.
Le problème, c'est que c'est pas l'année d'après.
Non, c'est pas l'année d'après, mais c'est sur le principe du. Tu es entraîneur, tu es dirigeant, enfin en l'occurrence, tu es sélectionneur. Est-ce que tu dois changer ? On a fait ce débat, rappelle-toi, avec l'Espagne ou même avec la France à une époque en disant tu es quasiment obligé d'aller dans le mur. Parce que tout le monde t'empêche en gros d'aller tout changer parce qu'on te dit que c'est trop risqué. Si ça marche pas, bah, on va te dire fallait garder les anciens. Et donc en gros c'est compliqué, si ce n'est d'aller dans le mur, la preuve par l'exemple, et là de refonder quelque chose. Là moi pour le Paris Saint-Germain, j'ai fait un avis au début d'été en disant justement il faut pas croire qu'on y arrivera avec la même équipe du côté du PSG. Et donc il faut changer
deux
les choses.
Heures, tu gardes,
alors c'est un peu compliqué parce que l'un des exemples que je prenais c'était le gardien. Parce que moi j'ai toujours été un partisan de changer Donnarumma malgré l'excellente fin de saison qu'il a faite. Et en l'occurrence pour le remplacer par Lucas Chevalier, super. Après il y a Zabarni, mais Zabarni part pas comme un titulaire, donc ça a été envisagé, ça on le savait, ok. Et moi j'ajoutais même effectivement, parce que le milieu de terrain compliqué d'aller trouver mieux, le 9, le poste de 9 et notamment le fameux Ramos. Plus, effectivement, des doublons éventuels pour les postes de latéraux et notamment Hakimi. Donc je pense que, par rapport à cet avis, je pense qu'effectivement le PSG a eu l'idée de ne pas faire exactement la même chose, parce que je pense que le poste de gardien c'est fondamental comme changement, c'est pas rien du tout, c'est pas parce que c'est qu'un 11e de l'équipe. Mais en revanche, ils sont pas allés au bout de cette logique-là et qu'effectivement, cette équipe qui change très 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 peu au final, enfin très peu, c'est difficile d'envisager que tu refasses la même chose avec quasiment la même équipe.
Bon, pour moi, tu peux prendre des exemples historiques, ça peut t'aider ou ne pas t'aider. Je sais pas si les comparaisons vont nous aider. Moi, la seule question qu'il faut poser, elle est à l'entraîneur. Est-ce qu'il sent, oui ou non, que l'envie, la fin FAIM de son équipe est la même? S'il sent que mentalement les mecs sont toujours frais, que le succès ne les a pas grisés, qu'ils ont toujours cette envie, je vois pas réellement de problème. Là où je peux voir un problème, c'est dans ce trio au milieu de terrain, le moteur de l'équipe, de me dire s'il y en a un qui se blesse, qui vient pour remplacer et va être au même niveau, ce que je ne crois pas concernant Zaire Emery.
Non, mais en l'occurrence, c'est sans doute le pari.
Mais n'oublions pas quand même quelque chose, c'est que cette équipe, dans sa forme actuelle, elle n'a qu'une existence brève. Elle n'existe que depuis janvier 2025. Parce que de août à décembre, il y avait énormément de changements. Tu as des joueurs qui ont été totalement transformés. Le Dembélé du mois de septembre et le Dembélé du mois de mars, c'est le jour et la nuit. Le Thiago Mendes du mois de septembre et du mois de mars, c'est le jour et la nuit.
Nuno Mendes. Non, mais t'as dit Thiago, mais c'est pas
grave. Oui, Mendes. Le Fabian Ruiz que tout le monde critiquait parce que c'était pas celui de l'Espagne de octobre 2024 et mars, c'est pas le même. Donc, ce que le PSG est devenu après le match contre City, on est dans cette continuité. Si le staff avec la cellule performance estime qu'ils ont les jambes, si le préparateur mental, si Luis Enrique et tout ce staff qui a très bien travaillé à partir du mois de janvier pour trouver cette équipe, n'oublions pas quand on parle de recrutement, parce que je trouve que ça passe tout le temps comme une lettre à la poste, mais Guevara a changé cette équipe. Et ce gars-là, pour 70 millions, est arrivé au mois de janvier. On oublie toujours cet élément fondamental. Donc cette équipe, elle existe depuis janvier. Moi, je la vois pas usée. Il y a aucune raison d'imaginer qu'elle va être usée.
Il y a des points d'amélioration qui sont clairs.
Puisqu'on parlait d'exemple.
Gardien était un point d'amélioration.
Puisqu'on parlait de comparaison,
ouais, j'ai déjà
raconté l'histoire plein de fois, mais je vais la raconter à nouveau parce que moi j'avais beaucoup aimé l'exemple. En 97, Otmar Hitzfeld gagne la Ligue des Champions avec Dortmund, ce qui est un événement majeur évidemment pour Dortmund, qui a toujours été un club plutôt dans l'ombre du Bayern, et il la gagne en plus un peu en surprise contre la Juve, et c'était plutôt inattendu. Et après la finale, il a une réunion avec les dirigeants et avec le président, et Hitzfeld dit l'année prochaine, si on ne change pas, c'est fini. Donc lui sent qu'il a tiré un maximum de cette équipe dans cette
aventure. Guardiola aurait dit la même chose à Barcelone.
Exactement. En 2012, en disant je sens qu'il y a des joueurs qui ont lâché. Il parlait d'Alves, de Piqué, de Fabregas. Donc ça, et c'est en gros, je prolonge si on peut réussir à les sortir.
Du staff. Et là, le président de Dortmund à l'époque lui dit mais t'es complètement malade. On n'a jamais imaginé pouvoir vivre un truc pareil. On a gagné la Ligue des Champions. Les gens sont dans la rue.
Le fameux truc pour Absolument. Les équipes nationales où tu ne peux pas changer, ouais. Tu estimes que tu dois garder, augmenter majeur, les joueurs.
Ces joueurs-là sont devenus des idoles et tu me demandes d'en virer 3-4 parce que tu estimes qu'ils ne vont plus avoir la dalle. Lui, humainement, par rapport à la gestion de son club et par rapport à la com au public, il a dit on ne le fera pas. Et il se fait, il a dit l'année d'après, ça s'est mal passé.
Un exemple
Donc,
juste.
Chaque exemple, chaque aventure est différente. Après, et c'est le staff qui doit étudier.
Alors, juste un point pour répondre à ça sur le staff. Et déjà, prendre un exemple tout bête, toujours dans ces idées de comment tu fais l'année d'après pour les équipes qui montent de Ligue 2 en Ligue 1. Tu sais qu'il y a des tas de trucs où on garde l'historique qui a été vraiment un joueur dingue. Oui. Ah oui, mais tiens, il a plus le niveau en Ligue 1. Bah oui, on l'a augmenté, on l'a gardé. Le Paris FC c'est un exemple aussi de ça, avec beaucoup de joueurs gardés qui peut-être n'auront pas le niveau. Ça, c'est pour expliquer que ça se passe à tous les étages. Pour revenir à ce que tu dis, oui, le coach, ils doivent le sentir, ok. Mais ce dont il a besoin, Luis Enrique, en dehors de le sentir et avec son staff, et ce qu'a apporté Guevara, c'est un très bon exemple. C'est quand même de la concurrence. Et de la concurrence top niveau, c'est-à-dire ils étaient 3, ils sont 4 pour les 3 postes de devant. C'est ça aussi qui a changé. Pas seulement le fait que Guevara soit un excellent joueur, c'est le fait que Guevara a apporté une concurrence. C'est en ce sens qu'effectivement, il manque sans doute, malgré tout, malgré le fait que tu as raison, cette équipe-là, elle est jeune et elle mérite de continuer dans l'ensemble. Mais le cas d'Unaruma, pour moi, était emblématique parce qu'il est excellent. Mais il peut y avoir meilleur.
Mais en fait,
le cas de devant, c'est pareil. Et donc, ça veut dire que moi, le seul truc qui peut m'inquiéter, effectivement, c'est le 9. Et effectivement, aussi les postes derrière, comme le doublon de Hakimi. Il
continue tout simplement à être performant.
Jean-Luc, très vite, moi, je pense juste qu'il y a deux, en fait, niveaux de lecture. Il y a la technique, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut, selon Luis Enrique, améliorer l'équipe techniquement, le gardien. Je pense Zabarni, Marquinhos aussi, ça fait partie de ça.
Voilà.
Et l'autre élément, c'est la mentalité, l'état d'esprit. Est-ce qu'ils vont être capables de se dépouiller comme l'année dernière? Et ça, là-dessus, il ne pourra pas s'en rendre compte avant le milieu de saison et la fin de saison.
T'as raison, tu sais pourquoi?
Il étudie tout ça.
Non, juste pour répondre à ça.
Non, on n'a pas le temps. Une minute de pub, on est déjà en retard.
J'ai oublié.
Il est 22h19. Garde bien ton idée. Parce que tu auras la parole dans une minute.
Là, t'es en train de la perdre, la minute, là.
Exact, j'aurais tout dit, déjà.
C'est parti.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h20, Jean-Louis Tour est là, Daniel Riello, Florent Gautreau. On va continuer le débat sur le renouvellement d'effectifs du PSG. Mais c'est vrai que WhatsApp, ça, c'est un carton.
Ah oui,
enfin, j'en reçois des dizaines de messages. J'en ai un marrant, là, de Frédéric.
Attends, t'as pas entendu, Daniel?
Non, mais moi, c'était pas très important.
Frédéric te dit, pour les 20 ans de l'after, j'ai fait un court essai. Il lui dit, l'after, c'est la terre, l'eau, le feu et le vent. La terre, c'est Florent Gautreau, c'est le terroir. C'est la salade d'accueil, c'est la France de De Gaulle. Solide sur les arguments, difficile à désarçonner, nous dit-il. Ouais.
Le feu, a priori, on l'a.
L'eau, dit-il, c'est Gilbert. Voilà. C'est la matrice, l'indispensable à la vie. Par là où tout passe.
Le feu,
Le feu, bien sûr.
Le football liquide.
Le feu, bien sûr.
Qui est le poète qui a écrit ça?
Le feu, c'est Daniel. Il grille tout, il brûle les auditeurs, les collègues. Il les tue, il les incendie.
Là où il passe, rien ne repousse.
On sent toujours la flamme qui peut jaillir à tout moment.
J'ai pas l'impression que les collègues soient perturbés, non? Hein, Jean-Louis, t'es perturbé?
Et le vent, s'il faut définir le. Non, mais moi ça va. Définir le feu, c'est plus toi que Gilbert, oui.
J'ai pas l'impression.
Non, mais le vent, il nous dit c'est Jérôme. Je pense qu'il parle de Jean-Bretagne. Ils disent tel le vent, on sait pas toujours d'où il vient, où il va.
Non.
Voilà l'essai de Frédéric.
Bravo Frédéric.
Alors, le feu pour les collègues, c'est pour maintenir le bronzage après l'été.
C'était
on est à côté.
On continue le débat, le 32-16 est ouvert.
Pour répondre à Jean-Louis,
le PSG doit-il renouveler plus son effectif pour continuer de gagner.
L'un des arguments en dehors de la technique, c'est la mentalité, c'est maintenir la fin FIM dont parlait Daniel. Mais le problème pour ça, c'est que Luis Enrique utilise lui-même la concurrence, c'est-à-dire le fait de pouvoir sortir un mec avec quelqu'un qui peut le concurrencer. Donc c'est quand même, il y a quand même un lien. C'est-à-dire que
oui, mais tu peux penser qu'il y a un gap technique quand même. comme dans son esprit il y a avec Zabarni, et qu'il n'y a peut-être pas sur les autres postes. Pourquoi il n'a pas recruté, il n'a peut-être pas trouvé de milieu de terrain qui va l'aider en plus à passer un cap.
C'est plus ça. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire de non-recrutement, là, de recrutement finalement assez limité, que j'aurais peut-être souhaité effectivement un peu plus large, c'est que Luis Enrique est intransigeant sur une liste, une shortlist qu'on doit lui faire en disant non, moi c'est pas mieux que ce que j'ai, enfin voilà. C'est pas du niveau que je veux, j'en veux pas. Je continue avec Zaïre Emery arrière droit et Neves s'il faut, je me débrouille, vous avez que ça dans la shortlist, j'en veux pas. C'est là où, peut-être qu'il a raison, hein, mais en tout cas, c'est là où moi je trouve que c'est limité.
C'est là le problème, c'est que le principe de base désormais, ce qui te donne la liberté entière et le crédit illimité, c'est que t'as gagné. Donc il a, déjà qu'il avait pas mal raison avant pour beaucoup, puisqu'il est comme ça, c'est un gourou. Là maintenant, il a tout le temps 100% raison, et que aucune de ses décisions ou de ses essais désormais ne pourra être discutée.
Non, parce que il a non, une sorte de blanc-seing. Non, mais
non, non,
mais ça, non, pour cet été, en tout cas, oui. Après,
jusqu'à une éventuelle élimination, personne n'osera évidemment.
Non, il peut sentir au milieu de la saison. Non, mais il peut sentir lui-même.
Il a marché sur l'eau.
Non, mais il a ce crédit-là, à mon avis, pour les premiers mois.
Oui, mais il a su évoluer. L'histoire de Guevara est intéressante. Tout le monde disait, oui, moi je disais même que j'étais partisan de laisser du temps, mais que c'était insuffisant en termes d'effectifs. Ils ont mis Guevara dans l'histoire, ça a effectivement changé la donne. Donc s'il est conscient qu'à un moment donné c'est trop juste sur un côté, sur un aspect de l'effectif, il pourra également évoluer là-dessus. Je dis juste que son intransigeance, c'est de dire
janvier, si c'est bien fait, c'est hyper utile. Ça
bien sûr,
été,
bien sûr.
Mais c'est une deuxième saison.
Mais l'intransigeance, c'est juste que dans le cas actuel, il décide de repartir. C'est aussi une marque de confiance vis-à-vis de certains de ses joueurs, y compris par exemple Zaïre Emery qui a un rôle dans l'effectif. Ce qui peut lui manquer, c'est si vraiment dans ses titulaires habituels, il a besoin de sortir quelqu'un pour le remplacer. Est-ce qu'il aura exactement le choix qu'il aurait pu avoir
J'ai pas d'affect. Si à un moment il se dit, c'est pas le genre d'entraîneur qui va dire j'ai gagné avec ces mecs-là, je pourrais jamais m'en séparer, etc. Lui, il va trancher, c'est vu avec Donnarumma,
c'est qu'il a pas d'affect.
Bien sûr.
Non, mais on tourne autour du pot. Mais le seul truc, moi, si je suis supporter du PSG, la Ligue des Champions commence septembre. Je me dis, ok, c'est pas grave. On a vu l'année dernière que même en étant hors des 24 pendant 80% du temps, t'es allé la gagner. Le seul truc qui peut m'inquiéter, voire me mettre en panique, parce que ça arrive dans d'autres clubs, ça arrive dans plein de clubs, et que le PSG a été épargné depuis un an, et que tant mieux si la cellule médicale et les performances fonctionnent du feu de Dieu, tant mieux. Évidemment, si demain on me dit, en janvier, Dembélé, le 20 janvier, Dembélé va se blesser, et début février, Vitinha va se blesser, ah bah oui. Mais là, c'est n'importe quel club traverserait un moment de doute et de crise à ce moment-là, si tu perds deux joueurs importants. Et le pire, c'est que je sais même pas si tu les as pris dès maintenant, les remplaçants potentiels de ces mecs-là, que tu les as mis sur le banc.
Moi je pense quand même que,
oui,
par
c'est,
exemple,
c'est voilà, c'est le seul doute qui est là.
Moi, pour faire simple,
sinon sur
pour
la
résumer,
fin des mecs, sur le truc, j'ai pas de doute là.
C'est plutôt le banc. C'est plutôt une histoire de banc. Et le banc qu'on a jugé quand même. Parce que maintenant, il faut revenir sur tous ces moments qui ont été chauds.
Tu sais que je sais même plus.
Mais le banc est insuffisant.
Au milieu de terrain, ton premier recours, c'est Zaïre Emery.
Soit ou Doué qui est où. Alors, Zaïre Emery, Kanginli qui peut faire milieu et devant, et Doué qui peut éventuellement reculer au milieu.
Et après, tu as des Mbaye qui rentrent.
Et devant,
tu as
Mbaye, Barcola. Quand même, si je considère dans que les trio, c'est voilà.
Mais, et Gonzalo Ramos. Mais donc, on est d'accord que le problème, mais c'est le banc.
Avec ces gars-là, tu es déjà moins sûr de toi pour toutes les
exactement.
Grosses échéances.
Exactement. Et d'ailleurs, ces débats, on les a eus. Et à juste titre, à mon avis. C'est-à-dire que quand ça marchait même mieux, mais qu'on regardait que les fois où le 11, en gros, devait être modifié, bah, à chaque fois, on a eu des questions. On a eu des questions et sur Mbaye, que je trouve d'ailleurs à son niveau très intéressant. Mm-hmm. Mais juste, on a eu des questions sur Ramos, ça plein. On a des questions sur le poste d'arrière droit. Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est ces deux latéraux qui sont des monstres, tous les deux.
Il n'y a pas de remplaçant.
Bon, ok. Bah oui, mais t'es obligé d'en avoir. Alors, ok, Luis Enrique me dit Zaïre Emery, Neves. Lucas Hernandez, par exemple. Pour moi, typique. Lucas Hernandez, pas niveau PSG. Ça fait partie des choses qui, tu vois.
Alors, donc, qu'on revient.
Ah oui, mais oui, mais il y a des changements quand même à faire.
Et
c'est ça
qu'on a oublié, c'était Mayulu aussi devant.
Ouais, Mayulu.
Dans les recours sur lesquels Louis Cédric est
compte. Il était bon.
Donc, le grand paradoxe, c'est de dire aujourd'hui, avec l'intensité du football, le nombre de matchs qu'il y a à jouer, il faut avoir doublé tous les postes et plutôt avec des bons joueurs. C'est ce qu'on a vu dans plein de clubs, notamment en Angleterre, City le faisait, Arsenal. Hein. Sauf que nous, on est dans un contexte qui est complètement différent, qui est que tu peux jouer avec tous ces mecs-là en Ligue 1, Mbaye, Lucas Hernandez, Mayulu, tu perdras pas les matchs et tu peux garder tes hommes forts, ta grosse ossature pour la Ligue des Champions. Mais quand j'ai dit ça, il y a deux semaines, le match d'après, enfin celui de ce week-end d'ailleurs,
Angers, il a mis l'équipe type. Mais peut-être voilà. Pour les
alors,
célébrations.
Est-ce que c'était parce que c'était le soir de fête, le retour au parc et qu'il fallait fêter les mecs et tout? Mais si.
Non, mais parce qu'il y avait, il y avait un match par semaine.
Ah oui.
Sinon, ils auraient eu 10 jours sans jouer, certains mecs.
Si le prochain match, le prochain encore d'après, c'est encore, on est encore avec 12 ou 13 joueurs. Là, alors c'est des surhommes, alors. Alors c'est des surhommes et il n'y a plus rien à dire. Mais ça défierait toute la logique
l'avis de
qu'on
Robin.
Voit depuis des mois et des années dans le foot.
L'avis de Robin qui est avec nous au 32-16. Salut Robin.
Oui, et à tous.
Salut Robin.
Bonjour.
Salut Robin. Florent, bon, tu as écouté Daniel, le débat. Comment tu poses... excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais.
Je disais bonjour à tout le monde.
Je disais bonjour à tout le monde.
Voilà.
Très bien.
Bah, salut.
Robin, quel est ton avis sur le débat, toi?
Bah, moi, je pense que Luis Enrique a bien vu l'effectif et que je pense que s'il y a un mouvement à faire, ça sera cet hiver. Parce qu'en fait, il va voir comment il va gérer comme l'été, comme l'hiver dernier avec Vara, il l'a rajouté dans l'équipe.
Ah.
Je pense que
ça peut être une stratégie, faire venir un gros cet hiver si besoin.
Voilà. Ouais. Par exemple, un Alexander Isak, s'il part pas et qu'il joue pas avec Newcastle, peut-être que cet hiver, bah, l'opportunité, elle sera là.
C'est un peu cher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, cet cher hiver. Pour le PSG, il n'y a rien qui est cher.
C'est vrai.
Bah oui, c'est pour ça. Moi, je pense qu'ils sont capables de faire venir un gros nom cet hiver. Ça sert à rien de le faire venir maintenant. Ils ont l'argent, ils peuvent le faire venir cet hiver comme ils ont fait avec Vara l'été dernier.
C'est une stratégie de PSG qui est différente d'un City ou d'un Arsenal qui ont un championnat très difficile et qui ont donc besoin de beaucoup de ressources. Un championnat difficile en termes de concurrence et en termes de d'intensité physique. La Ligue 1, tu peux y aller avec une équipe, c'est
si
pas un problème.
Je suis ton raisonnement, même en Ligue des Champions, tu peux gérer. Parce qu'en fait, avec la nouvelle formule.
Et tu peux.
Mais je pense d'ailleurs que ça a été le raisonnement de Luis Enrique l'année dernière.
Il est obligé d'être dans les trois premiers.
Voilà. Il a fait ses tests.
Enfin.
Ils ont un peu eu peur quand même.
Quand tu passes aussi limite que t'es passé.
Oui, mais de fait,
que t'as fait.
Je pense que c'était la raison. Il commençait à
travailler.
Si tu gères mieux.
Rien n'était prévu contre.
Non, mais rien, c'est pas que prévu.
Pas à ce point. Contre le PSV.
Mais bien sûr, pas à ce point.
Mais en tout cas, le laboratoire, effectivement, était en marche. Alors qu'il aurait pu, en mode Galtier, on va dire, mettre systématiquement l'équipe entre guillemets type, et il l'a pas fait. Mais après,
quand tu passes comme t'es passé contre City, après, moi je ne crois absolument pas à cette théorie. Quand tu sais la crise qu'il y a eu fin novembre,
ce
qui se disait.
Moi je crois pas non plus à la tienne avec une saison qui commence le 15 janvier. Hein, je suis désolé, tout ce qui s'est passé avant n'a servi à rien du tout. Et tu retournes une crêpe comme ça dans un match comme ça, c'est impossible.
Ah bah c'est
impossible, c'est pas juste comme ça. Hop, ça s'est passé le 15 janvier, 25.
À la 50e minute du match contre City, il se passe quoi?
Je veux dire par là, tu penses que ce jour-là les joueurs s'ont dit c'est bon, on fait un off.
Que t'as fait pendant les 6 mois?
Bah si, Dembélé par exemple.
C'est une farce.
Dembélé, Vitinha. Vitinha, comment tu testes les changements de poste? C'était le seul à pas l'avoir vu.
T'as attendu d'être mené 2-0.
Non, mais c'est bête ce que tu dis.
City,
c'est pas ça qu'on dit. Toi, tu dis la saison a commencé ce jour-là, c'est ridicule. C'est ridicule de pas considérer que tout le travail avant a permis de construire cette équipe.
C'est
incroyable. Je te dis pas que c'est 0-2.
Le même 11.
Non mais en tout cas de dire.
Donc t'as toujours vu le même 11. Avant il y avait que des changements.
Ouais.
Là tu n'as vu que le même 11.
Bah parce qu'il arrivait à la conclusion
donc,
que c'était le meilleur.
Et donc quand début.
Ça me paraît quand même assez logique.
Mais c'est la conclusion qu'on avait tous.
Bah, tu voyais pas forcément Vitinha à ce poste-là. Tu voyais pas Dembélé 9.
Si tout était en place. Bon. De toute façon il a jamais joué ailleurs au final.
Donc on a fait ce débat 75 fois.
Non mais la saison a pas commencé en janvier. Sinon tu construis pas une équipe comme ça. C'est pas possible.
Il faut qu'on conclue là.
Ce 11, il est apparu à un moment.
Ah oui, mais il n'est pas apparu ce jour-là comme ça.
Depuis 3 mois, on pensait tous que c'était le meilleur 11.
Peut-être, mais
toi aussi.
Oui, non, mais peut-être, mais en tout cas, ce qui s'est passé.
Sauf Dembélé en 9, pour le coup. Voilà. Parce que il n'avait pas travaillé avant spécialement.
Ce qui s'est passé avant a permis d'arriver à ça.
Ouais. Donc il n'avait pas tout prévu. Que Dembélé mette les frappes, c'est parce qu'il y a eu le travail et tout, que d'un coup on est passé de 5 mètres au-dessus, je ferme les yeux, ça rentre tout dedans. Non mais sans déconner.
Non, c'est vrai qu'il y a une
donc les joueurs, en fait, ils comptent pas. Il y a juste un génie qui arrive, qui prépare tout. Personne comprend, mais lui se comprend. La crise de début décembre, elle a pas existé. Luis Campos, quand tu es chez lui, qui dit qu'il y a des problèmes, qu'on sait pas comment faire avant le match contre Auxerre, contre Nantes. Il y a des problèmes à ce moment-là.
Ça, rien de ce que tu dis.
Il y a un problème de com.
N'empêche qu'il y a eu un travail qui a été fait avec des évolutions.
Mais il n'a pas évolué. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Ok,
bien sûr que si.
Tout était préparé, tout était calculé.
Le débat continue, bien sûr. On verra le mercato parisien s'il se passe quelque chose d'ici la fin de la semaine.
C'est pas ce qu'on dit.
Dans un instant,
point sur la saison n'a pas commencé le 15 janvier.
Dans un instant, point sur le mercato
lyonnais.
Les gars, on a des infos.
Comment faire de la sémantique.
Et puis le numéro WhatsApp, je vous le rappelle, 0612 424 424 pour envoyer vos messages à l'after. Le Maroc s'est qualifié pour la finale du Chan en votant le Sénégal au tir au but. La finale opposera le Maroc à Madagascar. A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h35, Jean-Luc Tour, Florent Gautreau, Daniel Riolo, Lyon au programme. On en a parlé hier de Lyon, mais les choses ont sensiblement bougé aujourd'hui. Alors évidemment, les deux gros dossiers, c'est Fofana et Nikotadze, juste un petit dossier. Koumbendi à Wolfsburg, ça se confirme.
Mais c'est pas un petit dossier, parce qu'à partir du moment où il y a
c'est un petit dossier quand même, parce que ça tombe.
Oui, mais à partir du moment où ça tombe.
Option d'achat à 6 millions.
À partir du moment où de l'oseille, parce qu'il y a aussi un petit jeune qui va se barrer à Séville.
Molébé.
Voilà. Donc à partir du moment où de l'oseille.
Là, c'est plus, c'est 10 millions. Ouais.
Ça. Comment dire ça.
Ça ferait 16.
Mais là, l'enveloppe nécessaire diminue. C'est-à-dire de 40 millions, tu peux passer à 24.
Molébé irait à Séville.
Mais on est encore loin du compte. Ce qu'on disait hier est toujours vrai. Avec néanmoins une news très importante aujourd'hui, Fofana ne partira pas. La famille, en plus, l'a annoncé clairement.
C'est une surprise, en fait.
Oui, puisque c'était lui qui était donné partant le premier. Mais il ne veut pas entendre parler d'Everton. Il n'y a pas d'autre club. Parce que tu sais que le boss de Lyon a bossé 15 ans au Bayern.
Oui, donc, le DG.
Gerlinger.
Voilà. Gerlinger a essayé, avec les relations qu'il a encore là-bas, de dire « vous voulez pas l'acheter, machin ». Bayern a dit « non, on peut faire qu'un prêt ». Donc il a dit « prêt, hors de question ». Donc il n'y avait rien en dehors d'Everton. Donc la famille a annoncé, en plus je ne vais pas répéter pourquoi, le papa, le mandat, machin, tout ça là. Donc Fofana reste. À partir du moment où on a su aujourd'hui à 100% Malik Fofana reste à l'OL, les regards se sont détournés vers l'autre homme qui a une valeur, Georges Mikotadze. Moi, je ne suis pas dans la comptabilité, mais les promesses ont été faites à la DNCG, à l'UEFA. Je vous rappelle quand même que Lyon a failli ne pas faire l'Europa League parce qu'ils n'étaient pas dans les clous du fair play financier.
On a failli pas faire la Ligue 1 même.
Bon, voilà, exactement. Donc, moi, il y a beaucoup de Lyonnais qui ont réagi sur les réseaux. Attends, moi, ça ne me fait pas plaisir. Moi, si Mikotadze et Fofana restent à l'OL, je pense que limite, ils peuvent jouer le podium.
C'est ce qu'on a dit hier.
Oui, c'est
donc,
on va en parler. C'est au fond une excellente nouvelle.
Et pour la Ligue 1, je préfère largement que les deux restent. Mais il y a une donnée économique qui est maintenant. Parce qu'on me dit, oui, mais ça peut être pour janvier 2026 ou pour juin. Ouais. S'ils arrivent par un moyen ou un autre, parce qu'en fait, la présidente, elle aimerait mettre l'oseille pour garder les deux. Elle pourrait mettre l'oseille pour garder les deux. Mais ce n'est pas autorisé par rapport aux règles européennes. Donc, s'ils arrivent à trouver un moyen de garder les deux, moi, je serais content, tant mieux.
Aux règles européennes plus que la DNCG.
Ouais, mais la donnée du jour, c'est qu'il faut trouver ces 40 millions. Donc, si on en a trouvé un, ça veut dire, en gros, Mikotadze pour 30-35. Donc, est-ce qu'il y a des discussions avec des clubs? L'OL avec des clubs à l'étranger? Non. La famille Mikotadze avec des clubs, il y a des approches. Est-ce que lui a envie de partir? Pas forcément. Pas forcément, il a pas dit je veux quitter Lyon ou quoi, j'ai pas dit ça non plus hier, j'ai jamais parlé de ça. Si financièrement l'OL arrive à se retourner pour garder les deux, tant mieux. La seule info sûre, c'est que Fofana reste et qu'il y a toujours cette histoire des 40 millions et que a priori oui, c'est plus Mikotadze qui doit partir.
Georges Mikotadze, écoute donc, l'after.
Oui, pour hier.
Oui, parce que
attends, j'ajoute juste un dernier truc dans ce que tu dis. C'est que pour l'instant, il n'a pas forcément envie de partir, mais il n'a pas eu forcément la discussion avec le club. Le club lui disant peut-être, on a besoin de ta vente. Voilà, peut-être qu'à ce moment-là, il reverra sa position.
Sachant que la priorité dans l'esprit du club était peut-être plus sur Fofana et c'était plus logique ces derniers temps et que ça bascule sur Mikotadze.
Que ce soit lui. Donc maintenant, il faut basculer sur l'autre.
Moi, je pense quand même qu'ils peuvent peut-être s'en sortir sans faire
s'ils arrivent à les garder.
Mais c'est marrant parce que c'était exactement l'objet de notre avis d'hier, puisqu'on s'est dit, enfin, moi, je disais que si Fofana et Mikotadze restaient, ce qu'on vient de dire, moi, à mon avis, l'OL peut aller titiller les premiers de Ligue 1. Si il y avait un choix à faire entre les deux, on disait, plutôt que Fofana reste, c'était pas contre Mikotadze, mais on disait que Jean-Louis qui était peut-être plus remplaçable, plus facilement remplaçable que Fofana, qui est un joueur vraiment hors norme. Donc c'est la direction que ça prend, donc c'est plutôt intéressant. Et puis après, revenons au cas Mikotadze, effectivement, parce qu'hier on en a parlé et il y a eu un misunderstanding.
Exactement. En fait,
c'est un hommage à Kevin.
Incompréhension.
il a lui-même réagi en disant mon investissement ou et l'autre mot, je sais pas. Et effectivement, j'ai dit quelque chose hier que je maintiens. C'est pas ça le problème, mais je n'ai jamais parlé de son manque d'investissement ou de son manque de travail à l'entraînement. C'est pas du tout à ça que je faisais allusion.
Et moi,
la façon dont je l'ai dit est peut-être pas bien dit, ça je veux bien croire que la façon dont je l'ai dit pouvait laisser place à une interprétation qui a été celle de Flo qui a répété deux fois si tu parles d'investissement machin
parce que je pensais que Daniel, je précise aussi, je pensais que c'était à ça que tu faisais allusion.
Et moi j'ai essayé de lui glisser en dessous, non je parle pas de ça, mais je l'ai certainement pas dit assez fort, j'ai pas été assez clair, je parlais pas de ça du tout, je parlais effectivement de soucis extra sportifs mais qui n'ont pas de lien avec l'investissement qu'il a à l'entraînement ou dans sa volonté d'être à l'OL. C'est pas
et d'ailleurs, on le dit ce
mais
soir.
Mais néanmoins, si j'en ai parlé, c'est pas que c'est neutre, c'est qu'à un moment, à l'OL, dans la direction, on s'est dit, est-ce qu'un jour ou l'autre, ce problème-là peut pas avoir une incidence sur lui? Jusque-là, ça n'en a pas. Mais quand t'es dirigeant, quand t'es staff dans un club, tu t'essayes de savoir un peu ce que font les joueurs en dehors, et tu dis il faudrait pas qu'un jour ou l'autre ça te pète un petit peu à la gueule. C'est tout.
Ouais.
Mais visiblement, moi on me dit c'est quelque chose qu'il règle dans sa vie et tout va bien et tout va pour le mieux maintenant. Moi je prends acte. Tant mieux. Mikotadze est un joueur formidable. Moi j'adore sa mentalité. J'ai aucun problème avec ça. Je n'ai jamais
voilà,
dit
tout ça. Il y a un peu mystérieux, mais parce que tu veux pas dévoiler
parce que j'ai pas la vie privée et tout. Voilà. Moi je n'en parle pas. À un moment où quand un club s'inquiète en disant ça peut avoir à terme une incidence. Moi, si on me dit non, mais ne parle pas de ça, il a réglé ces trucs-là et tout, stop, voilà, acte, on n'en parle plus. Sur le terrain, ça va, tout va bien.
Après, juste pour revenir sur l'aspect sportif, c'est vrai que si Michel Kang, ça c'est quand même important, a la volonté, bien sûr, tu ne peux pas aller contre les règles européennes, mais néanmoins, si c'était possible de garder les deux et s'ils étaient prêts à faire cet effort, c'est vrai que, pour revenir justement au cas Mikotadze, je pense que le départ de la Cazette, on l'avait beaucoup dit cet été dans l'after, était pour lui quand même, entre guillemets, une aubaine, parce que c'est vrai qu'il était trimballé entre le banc et le terrain, alors qu'évidemment, en tant que titulaire, c'est un super neuf et c'est un gars qui peut marquer des buts à l'OL. C'est vrai que là, ça n'a plus la même équipe. C'est vrai que cette équipe-là, avec un Mikotadze, quand je dis débarrassé, il n'y a pas, qu'il n'y ait pas de soucis d'interprétation là-dessus. C'est juste que la Cazette, c'était l'histoire, est partie. C'est très dur de gérer un la Cazette dans un vestiaire pour un coach, et c'est normal. C'était un très bon joueur. Mais Mikotadze en neuf, rassuré, on va dire, sur sa place de titulaire avec un Fofana qui reste, c'est plus la même équipe.
Alec est là, supporter lyonnais. Alec, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir l'équipe. Alec. Bon, c'est une très bonne nouvelle, non, que Fofana reste?
Pour le moment, oui, c'est ce qui a été dit. Après, on va attendre de voir jusqu'à la dernière heure du mercato.
Tu as quand même un doute jusqu'au dernier jour. Tu te dis, dans le foot...
Non, mais lui, il part pas.
Moi, j'ai aucun doute par rapport à la manière dont Fofana aborde sa saison avec l'Olympique Lyonnais. Il est très motivé, il a de très bonnes intentions. C'est quelqu'un qui est très généreux dans ses efforts sur le terrain comme dans la vie du club. On compte sur lui cette année. Après, effectivement, s'il y a une très grosse offre qui pourrait se présenter pour Mercato, c'est pas impossible pour moi qu'il puisse partir.
Une grosse offre et d'un gros club, parce que c'est sa volonté club, aussi voilà. D'aller dans un top club européen, et c'est pour ça et aussi qu'il resterait à Lyon.
Avec Fofana et Mikotadze, Lyon peut jouer le podium? Je sais pas qui l'a dit là, parmi vous trois. Moi tous, vas-y,
je
allez.
Pense que... C'est pas avec deux joueurs qu'on peut dire qu'on joue le podium. Ce sera vraiment avec une équipe, avec le banc, avec tout le monde. C'est quand même une année de transition à l'Olympique Lyonnais cette année. Alors certes, le début d'année, les matchs amicaux ont été très positifs. Il y a un très bel état d'esprit, un bel engouement. Il y a une nouvelle fraîcheur au sein du club aussi, qui fait du bien. Après, on va y aller step by step, sans trop non plus avancer pour pas que tout le monde s'enflamme. C'est mieux qu'on voie après l'Olympico de ce dimanche, on pourra déjà en savoir un peu plus sur l'état d'esprit des joueurs dans les gros matchs.
À lundi, tu vas avoir 9 points et le leader du championnat seul peut-être, on va savoir.
C'est ça, on va voir si l'équipe arrive à se transcender, à créer encore plus de liens sur le terrain et aller chercher les ressources nécessaires pour battre Marseille. Et là, après, on pourrait y voir un peu plus clair déjà.
Et il n'est pas impossible d'ailleurs que ce début de saison, quand même hyper sympa, sur le terrain, tu l'as dit, dans l'attitude, on voit
ouais,
des joueurs.
Les dirigeants à faire des choses.
Ouais, pousse Michel Kang à se dire, tiens, quand même, ce serait peut-être, si on pouvait faire l'effort.
On pouvait espérer la Ligue des Champions.
Michel Kang peut faire l'effort. Et je pense aussi que les instances maintenant n'ont plus le même regard sur l'OL et la direction actuelle.
C'est vrai.
Et pourraient être plus ouverts à la négociation. Par contre, top 3, vous vous emballez un peu quand même. Doucement. Attends, il se passe un truc, mais c'est Lens. Qu'il fasse top 5 déjà, ce sera très bien.
Néanmoins, juste un point
sur lui, c'est l'extincteur de l'after.
Non, mais quand même.
Hier sur Giroud.
Sur le truc économique, moi, ça me gêne quand même. Si Michel Kang veut vraiment mettre l'oseille, moi, ça m'emmerde un peu qu'on l'empêche.
Oui, oui.
Bah, moi, ça m'emmerde un peu qu'une instance arrive en disant « Ouais, mais non, vous ne pouvez pas. » Si le propriétaire, il est prêt à mettre l'argent, ce qui représente une forme d'investissement, en se disant « Cette année, mon équipe peut faire former, j'y crois, j'ai envie de miser dessus. » Et de toute façon, bah, Malik Fofana, la valeur qu'il a là, bah, oui, c'est vrai que ça peut varier en cours de saison. Mais bon, il y a des joueurs dans cette équipe.
Mais là, Daniel, tu remets en cause tout le fonctionnement du fair play financier. Parce que ça a été ça au début. Je pensais pas que tu mettrais un tir à Michel Platini comme ça. Non, je plaisante, mais c'est ce qu'on reprochait au fair play financier, c'est-à-dire que tu devais équilibrer tes comptes et dépenser l'argent que tu générais, et peu importe si tu avais un mécène ou un gros actionnaire qui pouvait remettre au pot en fin de saison.
Je suis d'accord, Jean-Louis. Je suis un peu, j'ai un petit peu de mal sur le sujet. Ouais. Je comprends la
subtilité étant la chute des droits télé qui fait changer de stratégie.
Je comprends la finalité.
Oui, c'est indispensable maintenant de remettre au pot.
Je comprends la finalité de la règle. Oui, tu ne dépenses pas plus que tu encaisses parce que on empêche les clubs de se mettre en danger. J'entends cette règle. J'entends surtout que ça permet aussi peut-être à un moment, ça a permis. En fait, selon les cas,
oui, il faut
mon appréciation, elle est un peu différente. Quand t'as
et l'esprit et la lettre, en fait.
Voilà, parce que quand t'as un club qui effectivement peut arriver, et puis bon, le PSG a quand même. Dans un premier temps, il était très sanctionné par le fair play financier. À une époque, on contrôlait la nature des contrats.
Mais ils ont pris des sanctions d'ailleurs.
Ils ont pris des sanctions, même si à un moment, on sait très bien que les contrats étaient bidonnés, là, les Qatar machin et tout. On sait très bien que ça faisait ils gonflaient les sommes. Et puis après, d'un coup, c'est devenu beaucoup plus light. Quand Nasser est devenu pote avec Seferin, c'était devenu un petit peu plus light. Donc tu vois. La cohérence, on peut pas dire que depuis 10-15 ans, elle a toujours été nickel dans le fair play financier. Vrai. L'idée de base de Platini, je l'ai toujours défendue. Je trouve qu'elle a quelque chose de noble. Dans la pratique, on a vu tellement de choses différentes. Oui, à un moment, le PSG a morflé là-dessus. À un autre moment, on a l'impression que c'est en fonction de qui t'es et des relations que t'as. Ça peut un peu varier. À un moment, le PSG, c'était chat noir. Et je trouve qu'on leur tapait beaucoup, beaucoup trop dessus par rapport aux autres clubs européens. Et puis après, bah non, maintenant on vous laisse tout faire parce que entre temps t'es devenu ami et puis t'as réussi à faire tes petits deals et tout. C'est la mentalité globale, elle est gênante.
Et ce qui est vrai, en prenant au cas par cas, c'est que tu devrais pouvoir saluer l'effort à Lyon, en fait, par rapport à la situation d'où ils viennent et ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, tu devrais pouvoir avoir un peu plus de tolérance pour ça.
Lyon, si Michel Kang elle est d'accord, en plus la banque de 40, on est passé, s'ils font les deux ventes, on va être dans les 28, un truc comme ça. Bon, si elle a envie de les mettre, bon, laissez les mettre, quoi. Et puis comme ça, ils gardent les deux joueurs, et voilà.
Voilà pour Lyon, dans quelques instants, l'avis de Flo. Il veut parler de Brest ce soir, et on a des infos sur Les Mélou à vous donner dans.
Il y a Jalabert qui a marqué pour Pafos.
C'est Jaja. Jaja, ouais, Pafos. Pafos qui égalise, donc il va sans doute aller en phase de poule de Ligue des Champions, un club chypriote, donc. Et le club de David Luiz.
À la 88e.
Ah, oui. David Luiz, que vous aviez oublié, il a signé à Pafos il y a quelques jours.
Et d'où ils ont la thune, Pafos?
Ouais, je crois que David Luiz,
il est plus trop regardant.
Ouais, voilà, il est moins exigeant.
C'est pas faux ce que tu dis.
Exactement. Et l'étoile rouge serait éliminée, enfin, hier en Europa League.
Ah, le but, il est ouf en plus.
Ouais, c'est incroyable.
Ouais, incroyable. En fait, il a voulu faire un centre, à mon avis.
Chut, ou la prolonger. T'es sûr?
La prolonger.
Voilà. Ah, ouais. Et Bodo Glimt va se qualifier également. Voilà un autre adversaire.
En interview après le match, je dirais j'ai envie de le faire, mais je pense qu'il veut prolonger.
Non, il a même un coup d'œil d'abord vers ses partenaires et après il voit que ça finit dans le but.
Non, après il regarde ses partenaires, il dit ils sont pas bons, ils vont pas marquer, je vais le mettre direct.
A tout de suite dans l'after.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h50, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour, Daniel Riolo sont là. Tout à l'heure, après 23h, Julien Laurence avec nous pour parler actu anglaise, Sunderland, les jeunes de 15-16 ans qui jouent en première ligue. C'est étonnant, on va débattre dans l'after de tout cela tout à l'heure. Mais pour l'instant, Brest est au programme. Jingle, Florent Gautreau.
Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul, c'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade Malherbe de Caen. Un but partout à 3 minutes de la mi-temps. Super pronostic de Xavier Gravelaine.
Voilà, ça c'était du beau commentaire de qualité, factuel. pas de jeu de mots, pas de préparation quand un but est marqué pour dire qu'il a rejoint le paradis des grands buteurs de l'histoire. Et on arrive à dire
on n'a pas honte de, bravo, de dire but. Non, je voulais parler de Brest et puis il se trouve qu'Éric Roy a...
Jean-Louis va commenter les matchs cette année, donc on va
écouter. Non, mais ça, Jean-Louis, ça va, c'est nickel. J'ai écouté
déjà. Ah, toi de Florent.
Oui, bien sûr, je m'inspire de tout le monde. De Daniel aussi, de toi, Gilbert.
C'était drôle. Il fait gaffe, hein, t'as vu?
Pas, c'était pas une blague, hein.
Non, mais il fait gaffe. Hein. J'ai entendu les propos d'Éric Roy et ça m'a laissé un petit goût amer sur la saison de Brest à venir, parce que je me dis que ça va être la saison compliquée par excellence. Après, je reviendrai sur Éric Roy parce qu'à la fois je suis d'accord avec le constat et je suis un petit peu surpris qu'il soit surpris, en fait. Brest, effectivement, le truc factuel et qui est assez dingue, c'est qu'ils sont 16e budget de Ligue 1, et c'est vrai que tout le monde peut s'en étonner parce qu'il y a eu la Ligue des Champions l'an dernier, mais en fait la vérité c'est que une partie de ce qu'ils ont récolté en Ligue des Champions a servi à couvrir les dépenses qu'il y avait dans la Ligue des Champions. Ils n'avaient pas leur stade, etc.
Ils ont pris plus que leur budget, hein.
Ouais. Ils ont pris 50 millions et qu'ils ont un budget de 35, un truc comme ça. Donc évidemment ça peut paraître étonnant, ça peut paraître effectivement frustrant, et il y a eu 12 départs pour une arrivée, et puis l'arrivée, excusez, c'est Majeki à la place de Bizot. Autant dire que tu as perdu en qualité au niveau de ton gardien, puisqu'on parlait des gardiens avec le PSG, c'est un vrai sujet dans la Ligue 1 cette année. C'est pas folichon. Donc c'est vrai que
il est arrivé quand même, non? Il y a Junior Diaz derrière, bon voilà, qui arrive de Ligue 2, et il y a Chotard. Ils n'ont pas pris Chotard au milieu de terrain.
Il vient d'arriver. Alors peut-être que mes stats effectivement dater du moment où j'avais vu l'interview.
Quand il arrive, la balance est
La balance est évidemment déséquilibrée. C'est vrai qu'en termes de niveau, même en termes de joueurs, c'est vrai qu'aussi Brest ne fait pas une grosse affaire. Et Éric Roy semble s'en apercevoir maintenant. Je reviens tout de suite à ce que je disais à l'instant sur le fait que je suis un peu surpris de ses propos, dans le sens où quand il a prolongé 2 ans au mois de mai, il a fait l'analyse que effectivement lui-même, hein, que l'argent de la Ligue des Champions servait avant tout à couvrir les problèmes financiers, on va dire, du Stade Brestois, et pas à faire des investissements fous. Lorenzi a communiqué en ce sens, Denis Le Saint a expliqué aussi. Ça a toujours été assez clair, en fait. Mais c'est vrai qu'on peut être inquiet, d'abord parce que les joueurs ont vécu un truc dingue émotionnellement et qui est très dur à reproduire et qui est très dur, dont il est très dur de se réveiller, on va dire, dans l'année d'après. Ensuite, parce que je l'ai dit, effectivement, c'est amoindri en qualitativement. Et enfin, parce que cet entraîneur, Éric Roy, qui à mon avis est quelqu'un de formidable, et en termes de jeu notamment, et il a quelque part fait aussi un peu surperformer ses joueurs, s'il commence à montrer qu'il n'y croit plus vraiment et qu'il est un petit peu frustré, voire défaitiste, à mon avis, ça peut avoir une incidence sur le groupe. Plus le départ de Lesmelou, puisque maintenant on en a parlé encore aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Donc je suis à la fois très inquiet pour Brest, parce que c'est très très compliqué de finir cette saison de Ligue des Champions qui a été une réussite, en se disant finalement t'es moins bon, t'es peut-être moins motivé, ton coach se demande un peu ce qu'il fait là, alors qu'il vient de prolonger au passage. Après, je suis un peu, je trouve ça un peu dommage, parce qu'évidemment, Éric Roy est quelqu'un qui prône quand même, on va dire, du jeu, qui est protagoniste, et le match, le fameux 3-3 contre Lille, c'est ça, était assez intéressant à ce titre, parce que, évidemment, c'est grâce au fait que, oui, il continue à vouloir jouer, Éric Roy, que ce match a eu lieu, grâce aussi aux boulettes un peu du gardien. Mais, ce coach-là, entre guillemets, effectivement, il doit se dire ça aujourd'hui, mérite sans doute un peu mieux que l'effectif qu'il va avoir cette année. Donc je suis inquiet, parce que je suis pas certain que l'aventure puisse durer très longtemps dans ces conditions entre un coach comme ça et cette équipe de Brest. Je suis inquiet pour Brest tout court. Je parle en termes sportifs. Après, le reste, c'est bien géré. Le président sait ce qu'il fait. Lorenzi aussi. Il y a un stade à venir. OK. Mais sportivement, il faut s'attendre à des mois difficiles.
J'ajoute à l'info du jour, Lesmelou devrait signer au Paris FC dans les heures qui viennent, contrat de 3 ans.
Bonne recrue.
Un transfert entre 6 et 7 millions d'euros selon René Tirsin.
Mais grosse perte, évidemment.
Et Jérôme Rotten qui était sur le dossier aussi.
Bon, de toute façon, Flo a dit énormément de choses qui sont vraies. La situation, elle est dure parce que c'est la réalité économique de notre foot. La seule chose qui a fait parler Éric Roy et qui a pu être une surprise, c'est qu'effectivement, quand tu sors d'une saison où tu as pris de l'oseille en Ligue des Champions, tu peux être étonné qu'il n'y ait que 2 équipes qui soient derrière toi en termes de budget.
Mais tu l'as expliqué.
Il disait notamment, on est derrière Metz. Voilà. Ce qui est vrai, hein, factuellement.
Mais tu peux, mais tu l'as dit. Il y a un stade. Oui, il y a une économie qui à Brest est tenue de façon parfaite. Il n'y a pas beaucoup d'entrées, pas beaucoup de recettes, pas de droits télé. Il n'y a plus rien. Donc la situation, elle est ce qu'elle est.
En gros, l'autre juste au passage, que poser... c'est la Ligue des Champions a peut-être même sauvé quelque part le club plutôt qu'il ne permis d'investir.
Exactement, t'as parfaitement raison. L'autre question que tu posais, c'est sur le travail d'Éric Roy cette année. Je pense que la plus grande des difficultés pour lui aujourd'hui, pour lui à titre perso et pour son groupe, c'est après une année fantastique, une autre où en Ligue des Champions, bah, on a encore été félicité partout parce qu'on a fait des trucs incroyables que personne n'attendait. On arrive la troisième année, on n'a plus grand-chose, beaucoup de joueurs sont partis. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? On se regarde dans le vestiaire, 12 joueurs sont partis, des joueurs importants sont partis. Est-ce qu'on a encore dans l'ambition ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et moi, je pense que le principal travail d'Éric Roy va être de dire à ces joueurs, bah, il faut... encore qu'on y croit, il faut encore qu'on croit en nous, il faut encore qu'on fasse quelque chose. Mais aujourd'hui.
Quels sont les objectifs, par exemple?
Le maintien.
Ouais, mais tu vois,
c'est le maintien.
Ouais, mais t'as pas. C'est dingue.
Mais c'est dingue parce que c'est en phase avec le budget. Est-ce que le club grandira dans les années à venir parce que stade, parce que ceci, cela? Pour ce qui concerne Éric Roy, ça me regarde. C'est vraiment mon avis à titre perso. C'est pas lui qui le dit ou. C'est vraiment. Moi, je pense que. Les trois années, puisqu'il va faire trois ans, les trois années, elles auront été extraordinaires. Ce qu'il a fait vivre à ce club-là, ce que ce club a vécu sur les deux années avec lui, la troisième probablement que oui, ce sera le maintien. Mais ça marquera l'histoire de ce club. Moi, si je suis lui, mais encore une fois, ça n'engage que moi, je retourne à Nice parce que Nice a besoin d'une identité. C'est un vrai Niçois. Il est de là-bas et il faut relancer ce club avec ce dont souffre le plus fort, la plus grande souffrance des Niçois, c'est la perte d'identité de ce club. Et je pense qu'il faut qu'il retourne chez lui, il faut qu'il relance ce club. Mais ça, c'est juste moi et mon avis perso. Mais pour ce qui est de Brest, oui, cette année, après deux années formidables, c'est les vaches maigres, c'est la situation économique du foot. Je pense que ce qui doit être le plus dur pour les joueurs, c'est quand ils sortent de l'entraînement, et que t'as le public qui est là, qui a vibré pendant deux ans, il dit ah, qu'est-ce qu'on fait cette année, on est encore dans le haut du classement. Non, la réalité c'est que les supporters de Brest, je pense que la plupart sont lucides, ils doivent le savoir. Non, aujourd'hui ça va être de laisser deux, trois équipes derrière. Alors parce que il y a trop de gens qui sont partis. Et t'imagines qu'aujourd'hui on apprend l'Esmelou va partir. Donc le milieu, 13e. Le milieu en plus, juste pour parler techniquement, donc Doumbia va jouer. Doumbia, c'est pas du tout le même profil que Camara.
Très bon joueur.
J'adore ce joueur, mais c'est pas du tout. Il va y avoir des matchs, il va falloir aller au combat. Et t'as perdu en intensité, en volume de jeu. Ça aurait été bien d'avoir des profils un peu comme ça au milieu. Alors t'as bon Chotard.
Non, mais c'est sûr que c'est pas pareil. Moi j'allais insister là-dessus justement en disant que ce trio au milieu de terrain, donc Lesmelou, Magnetti et Madi Camara, ça les a portés à la troisième place en Ligue 1. Et je pense que c'est un milieu vraiment exceptionnel qui rendait bon devant et derrière, quoi. En gros, quand t'as un milieu de terrain comme ça. Et ça, je pense que ça va faire très mal. Et
début de saison compliqué de Chardonnay, par ailleurs.
Oui, il a un peu de mal. Et puis l'autre truc quand même, pour revenir à Éric Roy cette fois, moi j'aime pas quand dans un mercato on s'envoie des pics entre directeur sportif, entraîneur, etc.
Il l'a dit à la conf de presse après. Daniel,
peut-être, mais à l'arrivée c'est interprété comme
Daniel,
ça.
Daniel il a dit quand même pendant cette conf de presse,
je me demande où est l'argent.
Non, il a même dit et je crois qu'ils sont au stade. Aller leur demander. Poser la question.
Exactement. Genesio avait fait la même chose pour l'étang à Lille, et je trouve que pendant le mercato, il faut vraiment montrer une union. Il y a trop de choses en termes d'image qui se jouent pendant cette période-là.
Après, Éric Roy, attention, rappelez-vous, on l'avait eu avec nous au Maroc il y a quelques semaines, et il avait dit, moi, j'ai été contacté, mais je dois beaucoup à Brest, donc je lâcherai pas l'affaire et je reste aussi parce que je dois beaucoup.
Moi, j'ai peur que cette dernière année finisse mal pour ces contraintes sportives. Ou que ça se passe mal avec lui.
Je crois qu'il va être frustré.
Je pense qu'il aurait dû arrêter après ces deux ans. C'était parfait. Et là, tu relances une nouvelle dynamique, un nouveau cycle avec quelqu'un d'autre.
Ce qui m'étonne, c'est pas lui faire un jour, au contraire, c'est qu'effectivement, il l'a fait aussi par esprit de fidélité. Mais je trouve que cette prolongation, il l'a fait trop rapidement. Parce que je pense qu'il est en train de se rendre compte que, en termes d'ambition de jeu, ou peut-être même d'ambition personnelle, pourquoi pas d'aller ailleurs, il se dit, comme dit Jean-Louis, mince, est-ce que j'ai pas fait l'année de trop? Et là, les déclats, ça part, tu sens qu'il envoie un message à ses dirigeants, il envoie un mauvais message à ses joueurs, à mon avis, à ceux qui restent quand même, et à ceux qui arrivent, les nouveaux. Et effectivement, je sais pas où ça peut aller, mais c'est difficile. Quand ouais, tu entends ton entraîneur comme ça, moi, si je suis joueur.
Non, mais moi. La machine.
Non, peut-être qu'il va relancer la machine. Il y a des moments difficiles, c'est vrai aussi, comme ça. Mais c'est difficile quand t'es joueur d'entendre ton coach qui, en gros, est en train de dire ouais, demande aux dirigeants, parce que là, on est une équipe super moyenne.
Ouais, mais je pense que les joueurs pensent un peu la même chose. Ils se disent putain, on a quand même perdu beaucoup de monde.
Dans un instant, on part en Angleterre retrouver Julien Laurence avec tous les sujets du jour, notamment les jeunes joueurs qui jouent en première ligue, 15 ans, 16 ans, Arsenal à Liverpool. C'est tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot.